Podcast Lire aux éclats.
Voici, je fais toute chose nouvelle.
Nous sommes dans une aventure incertaine.
Lire aux éclats.
Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode des podcasts Lire aux éclats de Réseau Picpus, présenté par votre serviteur Antoine, frère de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, avec mes fidèles compagnons Alexis et Camille.
Je m'incruste.
Notre thème pour toute cette saison, c'est celui-ci, vous venez de l'entendre dans le générique, voici, je fais toute chose nouvelle, tirée du livre de l'Apocalypse. Et dans cet épisode, on va s'interroger sur le renouveau par la sérialité et la reprise.
Série à quoi ? Antoine, tu peux pas trouver des sujets simples ?
Rien de plus simple. Tu entends quoi dans sérialité ?
Serial ? Serial killer ?
Camille, tu es un peu glauque. Non, série. Série télévisée, série limitée. Netflix et la nouvelle collection Vuitton, quoi.
Ah, mais ok, je comprends mieux. Et je comprends mieux le programme aussi. On a donc l'intervention d'un professeur d'université sur le principe de série dans la culture contemporaine, du chant, de la randonnée, du jardinage, de la poésie et la minute speed de Frère Quentin. Pardon, mais c'est quoi le rapport entre toutes ces choses ?
Ça, ma chère Camille, on va le découvrir maintenant. Mathieu Letourneux, bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de la sérialité, du principe de production par série. Tu es professeur à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de culture sérielle et médiatique. Tu as travaillé sur des séries populaires telles que Fantomas ou des figures comme Tarzan ou Spider-Man. Donc là, pour cet épisode sur la sérialité, est-ce que tu pourrais commencer tout simplement par nous expliquer la sérialité, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on la trouve dans notre environnement quotidien ?
Oui, tout le monde sait ce que c'est qu'une série, hein. Tout le monde regarde des séries télévisées, tout le monde a déjà lu en bande dessinée les aventures d'un héros sériel, de type justement Tarzan ou Spider-Man. On peut définir la sérialité comme une relation à une œuvre, que ce soit un film, une série télévisée, un roman, une bande dessinée, une relation à une œuvre dans laquelle le plaisir de lire l'œuvre est médiatisé par la relation à un grand nombre d'autres œuvres. Par exemple, quand on regarde un film de Star Wars, on a en tête les autres films de Star Wars. Quand on lit un roman sentimental de la collection Harlequin, on aime ça parce qu'on en a lu d'autres. Et donc, en fait, notre culture contemporaine est une culture très marquée par la sérialité, c'est-à-dire qu'on on consomme généralement des productions qui sont liées à d'autres productions. Donc voilà un peu la définition de la sérialité. Et on peut dire que la sérialité est liée, le goût des séries est lié à notre culture des 20e et 21e siècles tout particulièrement, parce que, en fait, la consommation en série d'œuvres de fiction, elle est liée à d'autres formes de consommation et de production en série qui sont celles des biens de consommation dans la société de consommation.
Est-ce que y a un lien à établir ? Tu as parlé de la particularité de la sérialité à l'époque contemporaine. Est-ce qu'on peut la mettre en lien avec l'idée plus classique de variation sur un thème ? Est-ce que ça, c'est une autre forme de sérialité ? J'interroge ici, est-ce qu'il y a une césure avec des siècles qui nous précèdent ou est-ce que la sérialité, c'est une façon de vivre avec des moyens technologiques plus aboutis, quelque chose qui est déjà en germe dans la production culturelle du passé, par exemple, typiquement l'art catholique, c'est une reprise continuelle d'œuvres qui interagissent les unes avec les autres et ne serait-ce toujours qu'avec une histoire qui progresse, celle du Christ. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est une forme de série ou une forme de précurseur de la sérialité ?
Oui, en un sens, on sait que l'art classique ou l'art antique a toujours fonctionné sur des principes de série. La statuaire gréco-latine, l'art chrétien, en effet, fonctionne par série avec des des conventions qui sont reprises et qui servent à communiquer. C'est même le stéréotype est un principe de compréhension. Et on pourrait dire que, paradoxalement, c'est avec le développement d'une société de consommation que l'originalité radicale a été valorisée. Or, il me semble même qu'on peut penser que c'est contre la société de consommation, contre justement les séries de production, les productions en série mais industrialisées, que l'originalité a été tellement valorisée dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ça explique déjà, c'est déjà la réponse à ta question. Oui, la sérialité est liée à une logique de la variation, de la reprise, qui est une logique qui caractérise toute l'histoire de l'art. Mais en revanche, sa nouveauté, c'est qu'elle est elle-même intégrée dans une culture de la production et de la consommation en série. Or, cette sérialité dans la culture de production et de consommation en série, elle est différente parce qu'elle est dans une logique de relance de la consommation, de relance de la séduction. Quand un producteur choisit de lancer une nouvelle saison d'une série télévisée, il le fait non pas comme le fait l'artiste chrétien pour dialoguer ou reprendre des formes conventionnelles de façon à toujours reformuler la même idée. Quand un producteur lance une nouvelle saison de série, il le fait pour relancer la consommation, pour relancer le plaisir, pour relancer l'œuvre. Et donc, c'est une logique qui est liée à une structure de séduction marchande. Ça ne veut pas dire que l'œuvre est mauvaise, ça veut dire on peut dire que la sérialité est une façon d'esthétiser les dynamiques de consommation et de production marchande. Donc de convertir en art les dynamiques de production et de consommation marchande. Et c'est pour ça, selon moi, que la sérialité, alors qu'elle est dans une logique de reformulation de convention, elle est aussi liée fondamentalement à la question de la nouveauté. Puisqu'elle relance, elle apporte sans cesse du nouveau, des nouvelles saisons, des reboots du personnage, c'est-à-dire on relance les aventures de Spider-Man, on relance les aventures de Superman, de nouvelles gammes de produits, et ça, ça pose la question de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a une reprise constante, mais qui pose la question de la nouveauté.
Est-ce que, et il faut limiter... La question de la nouveauté a ce rapport au plaisir. Est-ce que c'est le plaisir est la notion clé derrière la question de la nouveauté dans la sérialité?
Alors, en fait, dans la sérialité, il y a une double logique qui est contradictoire, et c'est cette double logique qui produit le plaisir. Une logique de répétition, de variation autour de formes identifiables, et ça, c'est pas de la nouveauté, on peut dire que c'est toujours pareil, et une logique de renouvellement constant, de relance de l'attraction, de relance du plaisir. Et donc, on peut dire que c'est entre les deux. Et c'est pour ça que, selon moi, le vrai terme qui permet de comprendre ce que c'est que ce plaisir sériel, c'est la question de la familiarité. La familiarité avec un ami, par exemple, c'est celle qui consiste à retrouver cet ami, avoir un plaisir toujours renouvelé, mais parce qu'on le connaît. Et quand on connaît quelqu'un, on sait le type de blague qu'il va faire, le type de choses qu'il va dire, mais il va les dire de façon toujours nouvelle. Et c'est ça qui va renouveler l'amitié et faire que cette amitié va se prolonger avec la vieillesse. Et il me semble que cette question de la familiarité, elle définit la logique sérielle et elle la définit profondément. Parce qu'en fait, elle explique la relation au temps dans nos sociétés, c'est-à-dire une relation liée à la régularité du travail, à la régularité quotidienne et hebdomadaire de la société moderne, qui explique aussi les modes de consommation de notre société, là, un rapport au monde qui a besoin de formes de stabilité, parce que sinon le monde est fuyant, justement parce qu'il se renouvelle, parce que dans un monde médiatique, d'informations constantes, le sens du monde nous échappe, et donc les fictions sérielles donnent un sens au monde. Et le troisième point qui est assez proche, c'est la question du rapport au sens. Pourquoi est-ce qu'on est attaché à ces fictions sérielles, à ces personnages récurrents, à ces formes récurrentes, à ces imaginaires stéréotypés? C'est parce qu'ils contribuent à structurer nos représentations collectives.
Merci beaucoup, Mathieu Letourneux, pour ces éléments de réponse qui sont à la fois assez succincts et vraiment très éclairants. Est-ce que, Pour terminer, tu pourrais nous donner des rendez-vous avec la sérialité autour de nous, dans des expositions, dans Paris.
Pour découvrir, bah, je pense que là actuellement par exemple il y a une exposition très intéressante qui s'appelle Enfin le cinéma qui est à Orsay et qui va qui évoque très bien ce que toutes ces formes de culture de le lien entre le cinéma, la culture de consommation, la culture de divertissement à la fin du 19e siècle qui va aboutir au cinéma et qui est en réalité une mise en évidence de la question de la sérialité puisque le cinéma pour Walter Benjamin, c'est le lieu de la reproductibilité technique, et la reproductibilité technique, c'est un des éléments de la sérialité. Quand on va au cinéma, on voit toujours le même film, quelle que soit la salle.
Mille merci Mathieu pour ton temps. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez des pistes de lecture dans la description de ce numéro pour approfondir. Gardez tous ces éléments dont on vient de parler en tête et on va rentrer dans la suite.
Les éclats.
Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai rejoint le réseau en 2014, à l'époque pour rejoindre la chorale gospel qui existait au sein du réseau, Pic Pulse, dans laquelle j'ai donc été 3 années, jusqu'à que cette chorale s'arrête et que soit créée dans la foulée une nouvelle chorale, un nouveau projet, Pic Pulse Singing, donc chorale dans laquelle je me suis impliqué depuis ses débuts. Alors la petite contribution que nous nous sommes proposés d'apporter du côté de la chorale pour ce premier podcast, sur une idée qui est venue notamment, je pense, de notre chef de chœur, c'est d'interpréter une phrase d'un des chants de notre programme actuel de plein de façons différentes. Alors on s'est prêté à ce petit exercice à l'occasion de notre journée de répète tout récemment, le dimanche 12 décembre. Je vous laisse écouter quelques extraits et j'en dirai ensuite un petit mot.
On essaye version normale pour avoir un point de repère.
I saw three ships
on Christmas Day.
On Christmas Day.
I saw three ships.
I saw three ships come sailing in on Christmas Day. On Christmas Day.
I saw three ships come sailing in on Christmas Day this morning.
Merci. Version amoureuse.
I saw three ships
on Christmas Day.
On Christmas Day.
I saw three ships.
I saw three ships come sailing in on Christmas Day. On Christmas Day.
I saw three ships come sailing in on Christmas Day this morning.
Très rapide.
I saw three ships
on Christmas Day.
On Christmas Day.
I saw three ships
come sailing in on Christmas Day.
On Christmas Day.
I saw three ships come sailing in on Christmas Day this morning.
Très
lent. I saw three ships
on Christmas Day.
On Christmas Day.
I saw three ships.
I saw.
Alors, on va s'amuser un peu. Donc, sauvage et belliqueux, c'était pas mal. On peut essayer.
I saw three ships
on Christmas Day.
Et voilà pour ces quelques extraits, avec pas mal de coupes, sinon cela durait une bonne vingtaine de minutes. Alors tout d'abord, ce que ça m'évoque, c'est un certain parallélisme avec le théâtre et des exercices d'improvisation qu'on peut faire au théâtre. Ça montre, je trouve, que l'expression théâtrale et l'expression musicale ne sont pas si éloignées qu'on pourrait le penser. En musique aussi, on essaie bien souvent de raconter quelque chose, et même d'ailleurs quand il n'y a pas de parole. Autrement, après avoir réalisé ce petit exercice, je me suis dit que c'était amusant, comme sur une toute petite phrase musicale comme celle-là, on pouvait partir dans autant de directions et en explorer autant de facettes. Après, ça conduit aussi à s'éloigner du sens musical de la phrase et du sens des paroles. Mais précisément, je suis persuadé qu'après un petit exercice comme celui-là, où on est un petit peu parti dans tous les sens, on pourrait d'autant arriver à la fin à aller vers la plus juste interprétation de cette phrase. Enfin, et puis bon, je pourrais pas développer beaucoup plus ici parce que sinon je serais vraiment trop long et trop bavard. Mais c'est sûr que la question de la répétition est d'une manière générale quelque chose d'essentiel en musique, comme sûrement dans toute forme d'expression artistique. Alors il y a la répétition du geste, bien sûr, dans une forme d'entraînement technique de l'artiste. Et puis il y a aussi des répétitions d'éléments constitutifs à l'intérieur d'une œuvre. Et je voudrais terminer simplement en évoquant en quelques mots la fascination de mon prof de guitare pour une forme musicale qui est celle du thème varié. Et donc c'est selon lui en fait la forme la plus difficile et la plus exigeante, où en gros on commence par exposer le thème du mieux qu'on peut, puis on va partir dans une série de variations où on doit malgré tout rester dans une continuité, dans une forme de filiation constante avec ce thème de départ. Donc on s'en éloigne tout en restant... il ne faut pas trahir non plus le thème. Donc il y a quelque chose d'assez fin là-dedans. Et puis tout à la fin, on va réexposer le thème. Et à la fin donc, de l'œuvre, le thème est réentendu exactement comme il l'a été au tout début de l'œuvre. Mais tout ce qui s'est passé entre les deux fait que ce thème, pourtant identique, sera perçu autrement par l'auditeur, avec une autre coloration, d'autres impressions.
Superbe. Merci la chorale, merci Alexis pour ce rendu magnifique d'une chanson qui est par ailleurs superbe. Mais j'y pense, Camille, toi, tu es dans la chorale, tu as chanté toutes ces versions. Alors, tu as préféré faire laquelle ?
La sauvage et belliqueuse. Était surtout assez incroyable. Mais bon, arrête avec tes questions, tu fais traîner les choses. La suite, s'il vous plaît.
Les roses éclats.
Bonjour, je suis Grégoire, l'un des responsables cette année de l'activité Pick and Choose au sein du réseau Picpus. Nous organisons, un dimanche par mois et pour tous les adhérents, une randonnée aux alentours de Paris. Il s'agit de marcher ensemble. Oui, mais encore, me diras-tu. Marcher, enchaîner les pas et les kilomètres, mettre un pied l'un devant l'autre, quoi de plus monotone et banal? Présenté comme ça, c'est vrai. Mais c'est parce que depuis notre première année de vie, on s'est habitué à marcher, debout, sur nos deux jambes, alors on n'y pense plus. Pourtant, justement, quand on y songe un peu, c'est un petit miracle que d'avoir vaincu notre peur primitive de tomber. Souviens-toi de tes premiers pas. C'est une prouesse incroyable que de mettre en mouvement toute cette mécanique, jour après jour. Tu ne trouves pas ? C'est pourquoi je te propose de venir marcher avec nous. Marcher vers l'inconnu, pour découvrir autre chose. Partir à l'aventure. Marcher à la rencontre de l'autre, pour nouer une nouvelle amitié, qui sait. Marcher vers l'autre, pour l'épauler et lui venir en aide. Marcher pour contourner l'obstacle. Marcher pour retrouver sa route lorsque l'on s'est perdu. Marcher pour mieux réfléchir, pour apprendre sur soi, pour changer de rythme, pour retrouver le bon rythme, pour se retrouver. Enfin, pour mieux redécouvrir la joie mécanique de la répétition, qui n'est autre qu'un infini renouvellement de soi. Allez, n'hésite plus et rejoins-nous à Pick and Choose.
Entre sagesse et pages de pub, on est tous conquis. On note tout de suite la prochaine rando de fin janvier. Mais en attendant, on va voir une autre façon de prendre l'air.
Les roses éclats.
Bonjour Laure, merci pour ta participation à ce premier épisode du podcast de LAE. Alors, est-ce que tu peux nous retracer tout d'abord en quelques mots ta participation au réseau et puis nous dire en quoi ton activité au sein de la Fraternité Saint-Hildegarde a résonné avec ce thème de la sérialité et de la répétition.
Bonjour, je m'appelle Laure, donc je fais partie du réseau Picpus depuis 2015. donc à la chorale Picpus Singing. Je fais également partie du groupe biblique. Et puis, depuis sa création, de la Fraternité Saint-Hildegarde. C'est un groupe qui s'est formé pour réfléchir aux questions de transition écologique dans la mouvance de l'encyclique Laudato Si. Et on a eu la chance de récupérer l'année dernière une parcelle dans le jardin de Picpus pour faire quelques plantations. Alors on avait envie de la travailler dans l'esprit de la permaculture, c'est-à-dire que sans engrais, il faut plusieurs années pour préparer le sol et trouver le bon équilibre, les bonnes plantes qui se plaisent dans le terrain. Et il se trouve que c'est un terrain pas de très bonne qualité, c'est un terrain de remblai avec des gravats. Donc du coup, on a commencé par l'enrichir avec un peu de terreau quand même, et puis un peu de compost. Et puis on a beaucoup réfléchi aux plantations qu'on avait envie de mettre. Donc on s'est orienté surtout sur des simples, et puis des légumes. On a récupéré des graines tout autour de nous, des graines de tomates, des graines de concombres, des graines de courges, etc. On a réfléchi à mettre ensemble des légumes qui se font du bien. Par exemple, les tomates et les haricots poussent bien ensemble. Et puis, on a planté des fleurs aussi. Quelques fleurs, donc certaines pour attirer les insectes hors de la parcelle, donc les capucines, ou pour repousser les insectes de la parcelle, les œillets d'Inde. Et enfin, on a répandu sur tout le petit terrain un mélange de fleurs mellifères, on n'avait pas regardé exactement lesquelles, voilà, dans l'idée que ça aiderait nos plantes à mieux pousser. On n'a pas mis d'engrais du tout, donc voilà. On a laissé pousser, puis on a désherbé et on a arrosé, tout simplement. Alors notre grande surprise, c'est ce qui a fini par pousser sur cette parcelle dont on ne connaissait pas grand-chose. Au final, nous avons eu quelques tomates et quelques haricots. On a eu des fleurs, les fleurs ont bien poussé. Et on a eu des pommes de terre qu'on n'avait pas plantées et qui provenaient en fait du compost des pères qui avaient jeté des épluchures de pommes de terre. Voilà, donc fort de cet enseignement, on a bien réfléchi et on s'est dit que l'année prochaine, on allait plutôt planter donc des simples et puis des fleurs, puisque les fleurs ont l'air de bien pousser, et qu'on planterait des légumes dans une autre partie du jardin qu'on a également eu la chance de pouvoir récupérer cette année. Voilà, on pense que d'ici quelques années, on aura trouvé le bon équilibre sur cette parcelle, les plantes qui poussent bien sur cette parcelle. Bon, ça nous a fait... moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait qu'en fait, malgré tous les plans qu'on peut faire, comme la nature, elle est première, elle passe par-dessus tout ça. Et voilà, il y a une dose d'imprévu dans le jardinage qui est en fait assez intéressant. Faut s'adapter. Et moi, ça m'a fait réfléchir aussi sur... Il y a plusieurs rythmes ou temporalités dans nos vies, parce que nos vies, elles sont orientées. Il y a un début, il y a une fin, de notre naissance à notre mort. Il y a aussi dans notre vie tout ce qui est répétitif, le quotidien. Ça peut être fastidieux ou très plaisant, mais répétitif. Et puis, il y a cette part cyclique qui nous vient de la nature. Alors, on ne perçoit peut-être pas forcément aussi bien en ville, mais ce retour des saisons qui chaque année rapporte des occasions de renouveau, des occasions de changement. C'est la même chose et pas tout à fait la même chose. Et l'année prochaine, dans notre jardin, ce sera un peu ce qu'on aura planté et probablement d'autres choses qu'on n'aura pas prévues non plus. Et voilà, petit à petit, on va trouver le bon équilibre pour cette parcelle de jardin.
Les roses éclats.
Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil, À point perdu, cette vépré, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comment peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés les séchoirs. Oh vraiment, ma rastre nature, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne de sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté.
Vous avez bien sûr tous reconnu l'ode à Cassandre de Pierre de Ronsard. Merci Mathilde pour cette belle lecture. Est-ce que tu pourrais nous partager pourquoi tu as voulu proposer ce beau morceau en lien avec le thème du renouvellement par la répétition?
Oui, alors d'abord, en premier lieu, ce poème me fait penser au renouvellement par la répétition parce qu'il me fait penser au cycle de la vie. Au fait qu'il y a toujours finalement une nouvelle jeunesse qui arrive. On sous-entend dans ce poème qu'il y aura des nouvelles femmes plus jeunes que la femme dont Pierre de Ronsard parle. Et finalement, c'est un cycle continu. Il y a aussi, donc, dans le changement par l'habitude, le fait qu'on ne se rend pas compte, on se renouvelle continuellement en vieillissant, en prenant de la maturité, tout en vivant un quotidien normal. Et il y a la phrase « Cueillez, cueillez votre jeunesse », justement. Cette jeunesse qui, sans qu'on s'en rende compte, est éphémère. Il faut l'accueillir. Et le fait de l'accueillir, en fait, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement de point de vue sur sa vie et une façon différente d'approcher, finalement, un quotidien similaire. Dans l'autre idée de série, il y a aussi le fait que ce poème fasse partie d'un recueil. Un recueil qui parle des femmes, des roses, de l'amour. Et donc il fait partie d'une série, d'une habitude tout en étant nouveau.
Est-ce que tu penses qu'on pourrait interpréter cette expression de cueillir, cueillir votre jeunesse comme une façon de consommer?
Alors, dans la façon dont le poème est écrit, cueillir, cueillir votre jeunesse, oui, fait référence à consommer, à un amour charnel entre l'auteur et cette femme à qui il parle, Cassandre. Mais cueillir sa jeunesse, ça ne veut pas forcément dire consommer. Ça peut vouloir dire apprécier la vie, manger un yaourt qu'on aimait et le savourer plus. Finalement, c'est un renouveau de point de vue. Ça peut passer par changer certaines choses, mais pas forcément. C'est avant tout quelque chose de spirituel.
Merci beaucoup pour tout ça, Mathilde. Merci pour toutes ces pistes. Et justement, en parlant de spirituel, on va maintenant écouter la minute spirituelle de Quentin.
Podcast Lire aux éclats. Lire aux éclats.
Bonjour, c'est Quentin, frère de la congrégation des Sacrés-Cœurs et aumônier adjoint du réseau Picpus, et je vais vous proposer la minute spirituelle du podcast. Une chose qui est constitutive de ma vie et qui est assez répétitive, c'est la prière. C'est plus ou moins vrai selon qu'il s'agisse de la prière communautaire ou bien de la prière personnelle. Mais dans les deux cas, le caractère répétitif dans la forme ne signifie pas qu'il se passe la même chose à chaque fois. Prier, c'est un peu comme marcher. Le procédé est globalement toujours le même, mais il ne nous mène jamais au même endroit. En fait, le Seigneur nous prend là où on en est, et il nous fait faire un déplacement. Par exemple, prier à partir des textes bibliques. C'est une marche qui mobilise un peu la tête, mais il ne s'agit pas de procéder à une analyse du texte. Il s'agit plutôt de se laisser rejoindre par des mots ou par une histoire dans notre intériorité, c'est-à-dire dans ce qu'on vit à ce moment-là, avec les joies et les angoisses qui nous habitent. Nos joies s'en trouvent purifiées et nos angoisses apaisées, par le simple fait d'avoir pu les confier à plus grand que soi. Autre exemple, au cours de la messe, la deuxième partie, qui vient à la suite des lectures et de l'homélie, elle peut parfois nous laisser dans une certaine passivité, parce qu'on a l'impression que c'est toujours exactement la même chose. Je crois qu'il est important de se rappeler que par ce mémorial du sacrifice du Christ, nous exprimons l'unité de notre foi autour de cet événement. Et ça, c'est un élément qui ne change pas. Un des fondamentaux de la foi chrétienne, c'est de croire qu'on ne peut rien donner sans l'avoir reçu au préalable du Christ. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, » dit Jésus. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» dit saint Paul. Donc, faire mémoire de cet événement qui condense l'essentiel du don que le Christ nous a fait, ça doit être le moteur de notre foi. L'essentiel est donc de vivre ce moment de la messe dans une disposition de réceptivité, comme c'est vrai aussi pour la prière en général. En fait, pour reprendre l'image de la randonnée, la prière, c'est une marche dont le premier protagoniste n'est pas nous-mêmes. Il s'agit de savoir abandonner pour un moment tout ce qui nous fait avancer habituellement, l'intelligence, la volonté et toutes les autres facultés, pour nous laisser façonner par l'Esprit Saint qui vient renouveler notre rapport au monde.
Podcast Lire aux éclats. Lire aux éclats.
Bon, ça va avec les reprises? Je crois qu'on a compris le thème maintenant. Partage-nous plutôt ce que tu en tires de tout ça, Antoine.
J'ai bien aimé l'effet de reprise entre les différentes interventions. J'ai l'impression que... Par ailleurs, la sérialité interroge à la fois notre essence, avec l'idée de retour à la source, à la familiarité, et notre existence, toujours en cheminement. Le tout, je pense, c'est d'harmoniser les voix, en fait.
Magnifique ! On voit que tu as été à la chorale. Bon, c'est la fin de ce premier épisode, qui, on l'espère, vous aidera à rentrer encore mieux dans cette nouvelle année, qui sera forcément meilleure que la précédente, y a pas de raison.
On vous met sur la page dédiée du réseau les crédits avec tous les noms des participants en les remerciant tous du fond du cœur, mais surtout un immense merci à Chloé Brio, notre chef de cœur, pour le jingle. Si vous voulez participer au prochain épisode et en choisir même le thème, restez connecté à la page Facebook Réseau Picpus. Voilà, voilà.
Il ne nous reste plus qu'à vous dire une chose, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour l'année à venir.
À l'année prochaine, sous le regard des Sacré-Cœurs.
Podcast Lire aux éclats.
Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Nous sommes dans une aventure incertaine.
Lire aux éclats.